C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Salut Philippe.
Salut Patrick.
Bon, écoute, je parlais d'un massacre du mardi soir au Centre Bell. Écoute, ouais. Philippe, donc défaite de 5-0 contre les Sharks, mais dans les estrades, beaucoup, beaucoup de sièges vides. Ça va pas bien pour le Canadien.
Non, ça va pas bien, Patrick. C'est un signal d'alarme pour le Canadien. C'est complètement inhabituel de voir ça. Le Canadien nous dit, bien sûr, que l'autorisation d'accueillir une salle comble au Centre Bell est toute récente. Donc, tous les billets n'ont pas pu être vendus. On sait bien qu'il faut en prendre et en laisser là dans cette affirmation-là, parce que hier, on annonce une foule de 16 000 personnes, mais il y avait pas 16 000 personnes dans les gradins. C'est l'évidence même. Là, on le voyait, les gens sur place en ont témoigné. À la télévision, c'était évident. Aussi. Donc, signal d'alarme, et je pense qu'on commence à vraiment saisir là, le dossier, combien le dossier de Marc Bergevin, de l'avenir de Marc Bergevin, est en train de miner le début de saison du Canadien.
Mais, Philippe, tu sais, le club est allé, si on n'était pas allé en finale l'année passée, là, est-ce que il y aurait des spéculations de congédiement pour le duo coach DG aujourd'hui?
Absolument aucun doute là-dessus. C'est sûr que le parcours en séries éliminatoires a permis à l'administration actuelle de demeurer en poste. Un but des Maple Leafs en prolongation dans le match 6 ou une victoire dans le match 7 en première ronde. Et je pense bien qu'il y aurait eu un grand ménage au Centre Bell. Puis ce grand ménage-là, là, je reprends l'expression consacrée quand le directeur général et l'entraîneur sont congédiés, ça n'aurait pas été étonnant parce que les résultats sont pas tellement convaincants depuis plusieurs années maintenant. Là, arrive ce parcours magique qui conduit l'équipe en séries éliminatoires. Et là, c'est là qu'arrive ce problème-là, qui est complètement inhabituel, Patrick. Habituellement, une équipe qui se rend en séries éliminatoires, le propriétaire est très content. Qui se rend en finale, pardon, de la Coupe Stanley, le propriétaire est très content. Et que va faire le propriétaire? Il va récompenser ses hommes de confiance. Et là, avec Marc Bergevin, son directeur général, c'est pas la situation. Alors, on assiste à un épisode qui s'en vient un peu loufoque, où Marc Bergevin, pour la deuxième fois en peu de temps, en point de presse, est obligé de dire qu'il aimerait ça revenir comme directeur général du Canadien la saison prochaine, laisse entendre que c'est hors de son contrôle. C'est comme si les conférences de presse de Marc Bergevin deviennent maintenant des plaidoyers qui lui permettent de plaider sa cause auprès de Jeff Molson. Et pendant ce temps-là, lui, Jeff Molson, on le voit pas. On l'entend pas. L'équipe est à la dérive. Ça va vraiment mal. C'est un début de saison catastrophique. Puis un début de saison catastrophique dans la Ligue nationale de hockey, Patrick, il arrive souvent que ça ne pardonne pas. C'est un mauvais mois d'octobre. Essaie pas d'aller combler le déficit après ça. Il est trop tard. La compétition est trop féroce. Alors là, que fait au juste Jeff Molson? Il va falloir tout à coup, pour le bien du Canadien, que Jeff Molson se branche. Est-ce qu'il veut, oui ou non, garder Marc Bergevin? Si la réponse, c'est oui, ben qu'il lui fasse signer un contrat. S'ils s'entendent pas sur la durée du contrat, disons que Bergevin veut encore 5 ans comme ses deux premiers contrats, puis Molson n'est pas sûr que 5 ans c'est une bonne idée, préfère lui donner 3 ans. Ben s'ils sont pas capables de couper la poire en deux à quatre saisons, ben à ce moment-là que Jeff Molson nous l'explique, qu'il nous dise s'il veut ou non le garder et à quel prix. Et là c'est pas une question que tu sais on va dire ben ouais mais c'est des négociations, ça doit demeurer du privé et tout. Non, c'est pas privé. Quand on en parle en conférence de presse puis qu'on entend directement général du Canadien, dire j'aimerais ça rester, mais je le sais pas, c'est que le président et propriétaire de l'équipe a décidé de le, tu sais, j'utiliserai pas, là, je veux pas utiliser l'expression le faire sécher, mais tu sais, ça ressemble un peu à ça quand même. Le gars a amené l'équipe en finale de la Coupe Stanley, moi tu le sais, je suis pas son plus grand fan, mais je trouve qu'il aurait le droit, au moins, d'avoir l'heure juste sur son avenir.
Philippe, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a une variable qui nous échappe, c'est clair. Le gars a sauvé...
Je suis pas sûr qu'elle nous échappe, la variable, ben, écoute, Patrick. Je pense que la variable, elle s'appelle Logan Mailloux.
Le gars amène son club en finale. Il n'y a pas de prolongation de contrat. Logan Mailloux, ouais, toi, tu penses que ça pourrait être ça?
Moi, je pense que ça fait mal à l'organisation du Canadien. Ça fait mal à l'organisation du Canadien. Écoute, quand le commissaire de la Ligue nationale de hockey dit qu'il est tombé en bas de sa chaise en apprenant que le Canadien avait repêché ce jeune homme-là qui voulait pas être choisi au repêchage, qui avait demandé aux équipes de pas le repêcher. Et là, tu as les commanditaires de l'équipe qui appellent au Centre Bell, qui veulent parler au propriétaire, puis qui disent « Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? » Et que là, que le propriétaire est obligé de faire des excuses publiques, de reconnaître une erreur de jugement, qui est obligé de lancer un programme de sensibilisation là contre les violences sexuelles et tout. Tu sais, on ne dira pas que ça laisse pas de traces au sein d'une organisation, que tout ça est oublié le lendemain matin. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça, ça laisse des traces.
Okay.
Alors là, si c'est ça, moi je pense que c'est une hypothèse. Je dis pas que c'est absolument ça. Je pense que c'est une hypothèse parce que sans ça, tu regardes ça puis tu dis Jeff Molson a toujours été un fan de Marc Bergevin. Et là, après la saison où Marc Bergevin conduit l'équipe en finale de la Coupe Stanley, on dirait que les canaux de communication entre les deux sont coupés. On dirait que ces gens-là se parlent plus. Et s'ils se parlent, je sais pas trop dans quel contexte ils le font. Et là, ben, peut-être que chez le Canadien, on nous écoute à l'heure actuelle. Puis qu'on dit, ben non, c'est pas de même que ça se passe. Ben, si c'est pas de même que ça se passe, dites-nous-le. Parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de perdre le contrôle de la situation. Il y a des articles partout, Patrick, sur Patrick Roy aujourd'hui. Est-ce que Patrick Roy a rencontré Jeff Molson? Oui, non, Patrick Roy dit non, c'est pas vrai. Puis c'est probablement pas vrai. Ouais, c'est ça. À quel hôtel? Mais, si tu penses que ça va arrêter comme par magie, ou si le Canadien pense que ça va arrêter comme par magie, parce que aujourd'hui, Marc Bergevin a demandé qu'on n'en parle plus, ben, j'ai des nouvelles pour Paul Wilson et Jeff Molson. Non, ça arrêtera pas comme par magie. Au contraire, ça va continuer de faire jaser énormément. Alors, si vous voulez pas perdre le contrôle de la communication, ben, communiquez. Laissez pas simplement Marc Bergevin aller au front. Puis dire ben oui j'aimerais ça fait deux fois là qu'il nous le dit qu'il aimerait ça, faites quelque chose, dites-nous où vous en allez avec ce dossier là, c'est important.
Philippe Quentin est en feu, mesdames
et messieurs. Attention à ta table, Philippe, tu cognes dessus, ça m'inquiète.
Non, ben coudon.
Hey, Philippe, qu'est-ce qui t'a le plus inquiété hier, la performance du Canadien sur la glace ou le nombre de sièges vides dans les estrades?
Clairement, la performance sur la glace, parce que la performance sur la glace est fonction du nombre de sièges. C'est ça qui va déterminer le nombre de sièges vendus ou pas. C'est-à-dire que si le Canadien retrouve son aplomb, puis bon, disons, on gagne ses 4-5 premiers matchs, puis que là, on retrouve un buzz, puis tout ça, je suis pas inquiet, là. Les billets vont se vendre, puis les gens vont y retourner au Centre Bell. Peut-être qu'on a un peu désappris à aller walker. Il y a encore beaucoup de télétravail. Les gens y allaient après le travail, aller au Centre Bell, là. T'es plus loin. Est-ce que tu pars au centre-ville pour aller voir dans un match de hockey? Regarde MC, t'avais l'occasion de le faire, puis en plus, t'étais pas loin, t'étais à côté hier, après ta soirée de travail, c'est ça, puis t'es pas allé. T'sais, alors imagine si t'avais été, disons, à Pointe-aux-Trembles, ben à la place, t'sais, ça t'aurait tenté encore moins. Alors ça, je pense que c'est un problème. Par contre, si l'équipe recommence à offrir du hockey excitant, je pense que là, les sièges vont se remplir, mais n'importe qui est un amateur de hockey puis qui a regardé le match d'hier, t'as-tu le goût d'aller au prochain?
Non.
Bonne question. Pose la question. Voilà. Merci, Philippe. Voilà. On se retrouve demain.
Patrick Lagacé en accéléré. Godbois. Godville.
Je trouve que votre jingle a l'air d'une annonce de pick-up. Je m'attends toujours à entendre la voix de Dan Bigra.
Oui, mais je sais que Luc est un fan de la guitare dans l'introduction.
Ouais, le petit riff, là, puis le son de métro aussi, c'est pas pire.
Ouais.
OK, Godbois, Godville. François Legault promet de permettre l'accès à Internet haute vitesse à toutes les régions du Québec avant la fin de son mandat. C'est comme promettre d'électrifier campagne dans les années tranquilles, ça.
Il reste un an, fait qu'on lui souhaite bonne chance. Il avait promis ça en 2018. Écoute, j'y crois, puis j'y crois pas, parce que ça devrait être fait depuis un méchant bout. Là, en plus, avec la pandémie, les gens sont partis en télétravail. Évidemment, quand on parle d'Internet haute vitesse, là, en gros, c'est comme un peu comme votre cellulaire. Quand votre cellulaire rentre quelque part, ça va bien. Mais quand vous éloignez, là, tu sais, Chibougamau, il y a des sections de l'Abitibi encore.
Hey, attends, laisse faire Chibougamau, là. En Montérégie, tu sais, dans le coin de Donham, ouais. Là, des fois, t'es sur une route de campagne, t'es pas à des années-lumière de la civilisation. Le petit signal pendant 15 minutes.
Ouais, ben imagine Internet haute vitesse, toi. Moi, ça a pris du temps. Ça fait à peu près 5 ans que je peux l'avoir à la campagne. Et puis tout ça, tu vois, c'est tout des enjeux qui touchent pas Luc, mais j'aimerais quand même l'entendre là-dessus. Tu trouves-tu ça important qu'on électrifie de manière Internet nos campagnes?
Ben oui, effectivement, parce que maintenant, il y a de plus en plus de services. Puis avec la pandémie, ça s'est tellement accéléré. Et puis oui, il y avait une annonce importante aussi dans le discours inaugural de M. Legault. C'était la santé et la télémédecine. C'est que il a pas juste dit qu'elle allait mettre de l'Internet. Il a dit que, haute vitesse, c'est que une des solutions pour décongestionner le système de santé, c'est qu'ils comptent beaucoup sur la télémédecine. Alors, ça, la télémédecine, avec l'Internet pas à haute vitesse, pense pas que ça peut marcher très fort.
En effet. Et puis, disons qu'on en a besoin parce que quand t'as pas de médecin à 100 km à la ronde, c'est pas entièrement évident. Fait que, là, faut dire qu'on va leur, avec l'argent qui a été consenti aux médecins durant la pandémie, je connais bien du monde qu'ils ont jamais parlé à leur médecin avant d'aller le voir. Et là, curieusement, depuis un an et demi, le médecin appelle souvent pour s'informer comment ça va. Tant mieux pour le patient. Mais bon, peut-être tant pis pour notre portefeuille, parce que pourquoi vous pensez que le médecin fait ça? C'est qu'il fait schlick-schlick à chaque fois qu'il vous appelle.
Hey, je vous interromps.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Juste une seconde, parce que c'est bien beau de promettre et de d'amener l'Internet haute vitesse partout. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, là. Sauf que je connais quelqu'un qui a des pourvoiries, okay, en région, évidemment, là. Et ce qu'il me dit, c'est là où la game vient de changer, c'est Starlink, l'Internet satellite de Elon Musk. Il paraît que ça rentre comme feu de Dieu, là.
Ben, tant mieux. Et c'était le problème, parce qu'il y a bien du monde qui s'approprie. En gros, si t'avais un poteau de téléphone qui amenait l'électricité jusqu'à chez vous, tu pouvais t'en sortir, puis tu pouvais finir par convaincre Bell ou TELUS ou quelqu'un de votre coin, Cogeco, de venir vous passer le fil. Mais quand vous aviez votre électricité par ailleurs ou que vous marchiez avec des génératrices, ben, c'était impossible. Fait que ça, c'est sûr que c'est une grande modification. Et là, ça va être de plus en plus difficile aussi de partir en vacances. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça puis qui sont addicts à leur machine. Donc, ils se disent la seule façon décrocher, c'est de partir dans une pourvoirie où vous allez me garantir que j'aurai pas Internet, pas de télévision, pas de téléphone. Mais là, malheureusement ou heureusement, ça va être un peu partout. Mais ça amène à une autre promesse du gouvernement Legault. C'est-à-dire, ça m'a... Ben, j'ai compris que la CAQ, son fonds de commerce, ce sont les régions. Il prépare déjà sa campagne électorale. On est en campagne électorale provinciale. Donc, tous les prochains emplois, il essaie de les envoyer vers les régions. Donc, il promet plusieurs choses. Il promet de donner des travails dans la fonction publique un peu partout au Québec pour que les gens travaillent à la maison, mais pas juste à Montréal, à Québec, à Shawinigan, mais partout. Il parle des Premières Nations aussi, des Inuits, pour donner du travail à ces communautés-là, encore une fois, grâce à la technologie. Et puis, il veut travailler avec les MRC pour que la situation de l'emploi s'améliore avec Investissement Québec et le ministère de l'Économie. Moi, personnellement, les MRC, j'en ai vu beaucoup de programmes, j'ai entendu beaucoup de vœux pieux. Est-ce que ça va arriver? Moi, les gens que je connais qui sont déménagés en région puis qui travaillent en télétravail, c'est parce que eux ont fait le choix et ont convaincu leur employeur ou ont parti leur petite entreprise sur Internet de le faire. En Mauricie, j'en connais plein, à Saint-Tecle, à Saint-Casimir dans Port-Neuf, à Saint-Raymond. Ils sont allés en région et ils font. Maintenant, est-ce que le gouvernement pourrait le faire, Luc?
Ben, d'abord, avant, ça aurait été non, la réponse. Hein? Avant, le télétravail, ça aurait été... Parce que de la même manière que tu peux pas faire du transport en commun efficace en banlieue, de la même manière, tu peux pas déménager un ministère dans un village où il y a pas assez de densité, pas assez de monde. Parce que tu vas avoir besoin de corps de métier, puis pas juste trois dans chaque. Là. T'as besoin de la profondeur. Là. C'est comme dans le Canadien. T'as besoin de la profondeur pour chaque poste. Puis si t'as pas de profondeur, ça veut dire que t'as pas 10 personnes qui peuvent faire le travail, mais finalement, t'en sélectionnes deux. Puis là, finalement, il y en a qui vont travailler temporaire, etc. Ben là, tu arriveras pas. Mais là, avec le télétravail, on peut penser qu'il y a une chance que ça fonctionne. Mais pas à Maria, en Gaspésie. Il faut que ça soit à Granby, à Drummondville.
Ah, là, on n'est pas d'accord. Pourquoi pas à Maria?
Pas assez de monde.
Pis, comment pas assez de monde? Au contraire, ça c'est déjà... Ça, je suis content parce qu'enfin, on trouve un point où on n'est pas d'accord. L'occupation du territoire. L'occupation du territoire, c'est pas juste la banlieue de Montréal puis la banlieue de Québec. Il faut qu'il y ait du monde qui... Jusque ça à Basse-Côte-Nord où il n'y a même pas de route. Je le sais, l'hiver, faut qu'on aille leur parachuter de la bouffe avec des avions, parce qu'il n'y a pas moyen de se rendre là. Il y a du monde qui habite là. Oui, c'est des petits villages. Oui, c'est 500 personnes. Oui, c'est 300 personnes. Est-ce qu'on veut qu'ils quittent ça? Non. Si on leur donne Internet, et Patrick t'en parlait tantôt par satellite, il y a des gens qui peuvent rester sur place. C'est pas tout le monde, Luc, qu'il faut qu'il déménage à Montréal. C'est pas tout le monde qu'il faut qu'il devienne urbain. Mais moi, je pense même.
Non, mais là, je te parle pas des préférences et des comportements souhaitables. Premièrement, si tout le monde... Je te l'ai dit une fois, le président... Comment ça que tu t'en es pas rappelé? Le secrétaire d'État de l'Environnement aux États-Unis avait dit la pire affaire qui peut arriver à l'environnement sur la planète, c'est que chaque Chinois puisse s'acheter une mobylette. Mm-hmm. C'est que... Mais c'est la même chose. C'est des petits gestes individuels Si tu les multiplies, c'est une catastrophe. Tu veux pas que les gens aillent tous habiter à campagne dans le bois. Tu ne veux pas ça.
Ben moi, au contraire, je veux pas que tout le monde vienne à Montréal.
Non, ça non plus, tu veux pas ça. Ça non plus, tu veux pas ça.
Plus de chars, plus de policiers.
Ce qu'on veut, c'est renforcer Rimouski, Rivière-du-Loup, peut-être Gaspé. Ce qu'on veut, c'est renforcer des villes qui existent déjà, mettre du monde là, et que, rendu là, il y a un mode écologique. Tu veux pas que quelqu'un se déplace de Montréal, puis qui a habité à Percé, mettons, et que tout à coup, son nombre de kilomètres franchis par année soit multiplié par 3. Parce que là, t'as rien sauvé, là.
Il va rester là, mais quand tu parles de Rimouski, on va parler des terres aussi, tout le Témiscouata, puis toute cette section-là. C'est là qu'on se nourrit, c'est là qu'on fait notre bouffe, et c'est là que j'embarque mon acheté local. Si t'achètes local dans ce coin-là, on va occuper le territoire au complet, et il y aura pas de problème. Et moi, je pense qu'il faut désurbaniser. C'est
ouais, je vais t'envoyer en thérapie. Sais-tu pourquoi je vais t'envoyer en thérapie? Je vais t'envoyer en thérapie au lac Saint-Jean.
Ouais.
Écoute, je passais en bicycle à côté d'une forêt de poteaux. C'est quoi cette affaire-là? Ben, ça n'en finissait plus.
Mais là, t'étais où exactement? C'est grand, maudit.
J'étais entre Dolbeau et Saint-Félicien.
Okay.
Puis là...
Là, t'étais au lac, là.
Au lac. Et puis là, écoute, jamais vu un bâtiment. C'est un bâtiment en construction que j'ai jamais vu.
Qu'est-ce que c'est une forêt de poteaux?
C'est quoi qui s'est passé?
C'était une serre en construction. Pas la serre à ton mononcle, là. Une serre, il n'en finissait
plus. À grande échelle.
Plus. Oui. À grande échelle, tu dis, j'ai jamais vu ça. À toutes les 100 mètres, il y avait des transformateurs d'hydro, parce que la patente va consommer tellement.
Mais c'est quoi le problème?
Gros transformateur. Et donc, quand bien même t'es à campagne, il y a l'économie mondiale, puis si tu fais du concombre, ben, cette serre-là, elle sert uniquement à faire quoi? Des concombres.
Okay.
Des concombres.
Puis, on est autonome en concombre. Ben
oui,
non,
mais c'est parfait, c'est une bonne chose, etc.
Mieux que mon concombre arrive de Saint-Félicien qui arrive de Cuba, puis
Chine, tout ça pour te dire que. Ben, c'est super, mais tout ça pour te dire que quand on délocalise dans la région, c'est pas juste une petite intervention, genre, lui s'installe, puis il va aller chercher ses tomates chez son voisin, là. Son voisin, il risque de produire des tomates pour tout le Canada.
Puis,
c'est très bien. C'est très bien.
Ben ouais.
Mais c'est, je veux juste le préciser, là. C'est ton modèle de j'habite à Saint-Félicien, à côté de chez moi, il y a 3 maraîchers, un éleveur. J'adore ça. J'aimerais ça mais qu'on vive comme ça. Mais j'ai de la misère. De la même manière, j'ai beaucoup discuté à penser qu'on va transférer un centre de fiscalité ou le ministère de l'Économie ou Hydro-Québec. Hydro-Québec, avant, il y avait 36, il y avait 16 directions régionales, puis il y avait des vice-présidents partout. Ils ont tout centralisé ça parce que ça coûtait une fortune, premièrement, puis les vice-présidents, une fois que tu leur donnes le poste, ils veulent exercer leur pouvoir, puis quand ils exerçaient leur pouvoir, ils n'étaient pas d'accord entre eux, en tout cas.
Mais c'est une mauvaise nouvelle. Un des boss de Patrick, qui est Télé-Québec, avait des bureaux à l'époque partout parce que c'était télé. Québec, c'était Radio-Québec, c'est encore mieux, mais c'était partout, et là, Radio-Canada était partout, puis on a tout ramené ça à Montréal. Moi, je pense que c'est la pire des décisions qu'on a prises.
Mais l'argent, l'argent, MC.
Comment l'argent? Ça coûte pas plus cher. Au contraire, ça coûte bien moins cher à quelqu'un de vivre à Rimouski.
Oui, oui, mais attends, une fois que tu mets une direction régionale, Radio-Canada fait pareil, il y a tout centralisé. Pourquoi? Tu mets une direction, beaucoup centralisé, parce que tu mets une direction régionale, ça prend un directeur
mais
de l'information, un directeur de la programmation, une secrétaire, etc. T'en sors pas, là.
C'est de la pensée à courte vu. Parce que si tu t'envoies de l'argent dans les régions, les gens, ça leur coûte moins cher vivre. Les terrains coûtent moins cher, les maisons coûtent moins cher. On parle de ces jours-ci, là, de l'augmentation des coûts partout, puis de l'inflation. Il n'y en aurait pas eu autant que ça. Si on s'était tous concentrés à la même place, il n'y en a pas de triplex à 1 million à Saint-Félicien. Il n'y en a pas. Puis tant mieux.
Juste pour préciser quelque chose, MC. Tu sais qu'il y a une expression à Toronto qui s'appelle dans le Canada anglais en règle générale, ça s'appelle drive to buy ou drive until you can buy. Ça veut dire, et il faut que tu t'éloignes parce qu'à un moment donné, ça coûte trop cher dans les grands centres. Et Toronto est en train d'envoyer du monde à travers le Canada. Les maritimes se plaignent énormément de l'afflux de Torontois qui ont fait augmenter. Et ici, même au Québec, une partie de notre problème immobilier vient de ça. C'est que le déficit qu'on avait constant avec le Canada de nombre de Québécois qui partaient par rapport au nombre de Canadiens qui arrivaient est résolu. Il y a autant de, dans les deux sens. Alors, c'est 10 000 personnes de plus par année. Donc, si on fait ça, mettons, avec Rimouski ou avec Chicoutimi, ce ne sera pas longtemps que ton concept qui consiste à dire c'est moins cher, allons nous installer là-bas, ça va durer 6 mois. C'est moins cher, allons nous installer là-bas, on s'installe là-bas, ça devient plus cher.
Ben oui, mais c'est, on appelle ça créer de la richesse.
Bon.
C'est plus cher, plus de jobs.
Je vous amène sur un autre terrain, les gars. Il y a des élections municipales qui s'en viennent au début du mois de novembre. Là, MC, tu vas expliquer à Luc à quoi ça ressemble une campagne électorale à Saint-Anne-de-la-Pérade.
Ah oui, OK, je vais entendre ça.
Parce que, tu sais, Luc et moi, on n'est pas d'accord toujours, mais on s'aime beaucoup. Et là.
Oui, je le confirme.
Bon, tu vois, il faut le dire aux gens. C'est parce que les gens sont bien fâchés. Ils disent, vous vous chicanez. Mais là, on est capable de débat au Québec, commande tout le monde. Donc, il y a une candidate. C'est très rare en région. Habituellement, ça se fait par acclamation. Et là, j'ai deux dames qui veulent se présenter à la mairie. Et là, cette semaine, Luc, je veux avoir ton expérience parce que toi, tu as été candidat maire et maire. Donc, je reçois une feuille 8,5 par 11 imprimée dans Word sur laquelle c'est indiqué candidate à la mairie, élection municipale. La date, ça va bien. Alors, je te lis son texte et tu me dis quelle est la différence entre sa campagne et la tienne, OK?
OK.
Et remarque le premier mot qui est la chose la plus importante dans la campagne. Native et résidente de Saint-Anne-de-la-Pérade, j'ai pour ambition de servir sa population sans improvisation et en équipe avec tous les conseillers élus si vous m'accordez votre confiance au scrutin prochain. Mes autres priorités, écoute, impartialité, rigueur et transparence.
C'est tout.
Et là, si tu veux en savoir plus, je vous ferai part de mon programme lors d'un prochain rassemblement auquel vous serez conviés. Pour en savoir plus, suivez mes réseaux sociaux. Si vous voulez me rejoindre, voici mon adresse courriel. Je souhaite que vous votiez pour moi. Luc, qu'en penses-tu?
Quel poste que veut avoir?
Maire.
Oh, maire.
Ah, on
déjà...
peut même dire mairesse.
Mairesse, ben oui.
Mais ça dépend, il y a un débat là-dessus. Ah oui. Comme au très sauteur, bon, il ira pas là.
Bon, ben, je sais pas c'est quoi les enjeux à Saint-Anne-de-la-Pérade, mais en règle générale, t'as besoin d'avoir été un peu, peut-être frotté un petit peu. Soit t'as fait de l'administration, t'as travaillé dans des bureaux, t'as travaillé dans la fonction publique, ou tu t'es présenté souvent au conseil de ville, t'es intéressé par l'environnement, l'aménagement du territoire, par le transport, la circulation, la sécurité, les bibliothèques, les sports et loisirs. Si t'as jamais rien fait tout ça, pis t'es dans ta cour, puis tu te dis dans ta cuisine, tu te dis, ben, écoute, je ferais une bonne mairesse, moi, là. Ça se peut, mais ça va prendre un peu de temps. Avant que tu sois bonne.
Mais que penses-tu de écoute, impartialité, rigueur et transparence?
C'est son programme.
ce sont des bonnes valeurs. On peut pas se moquer de ça, là.
Mais en même temps.
Moi, il y a pas expérience là-dedans, hein?
Non.
Bon.
Mais je me moque un peu de la dame, mais je vais me moquer aussi de la mairesse sortante qui, elle, ne m'a même pas envoyé une page 8,5 par an pour m'expliquer pourquoi j'allais voter pour elle. Donc, je suis un peu...
C'est combien le salaire de Saint-Anne-de-la-Pérade? L'as-tu regardé?
On m'a dit que c'était 8 000 de base. Et comme tu as plusieurs autres emplois à la MRC, puis tu peux t'impliquer dans plusieurs... évidemment, il y a une multitude de rencontres et tout ça. Ton salaire peut monter jusqu'à 20, 25. Si tu fais beaucoup de choses, 30.
Ouais. Mais tu peux pas avoir des attentes hors du commun pour cette braquette salariale-là non plus. Hein.
Fait que ce qui m'inquiète, et puis j'en appelle à tout le monde au Québec et tout ça, et ça, je l'ai déjà dit en le pensant sincèrement, pourquoi il n'y a pas plus de Luc Ferrandez de région qui arrive dans sa ville et qui disent pas juste « je vais balancer le budget, rigueur, transparence, écoute, impartialité ».
Il n'y a pas assez de rues à bloquer.
Ben, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui ont un petit peu de vision, parce que j'ai beau pas habiter à Montréal, ben j'aimerais ça qu'on développe quelque chose. T'sais. Et c'est là que j'arrive avec l'exemple de Saint-Élie de Caxton, où sans doute Fred Pellerin va réussir à faire tomber le maire actuel. Il y avait une personne, on va lui donner, il a pris un village bien ordinaire, puis il a réussi à convaincre un paquet de monde, dont des Européens, d'aller faire un tour à Saint-Élie de Caxton pour voir un arbre de Popperman.
Puis le maire a trouvé le moyen de chicaner avec.
Puis le maire a trouvé le moyen de se chicaner avec, puis d'organiser une espèce de construction d'un stade de 300 places pour inviter les gens, mais sans impliquer Fred Pellerin, ce qui a été une catastrophe.
Luc,
oui.
Je veux te demander, il y a une élection municipale qui s'en vient. Est-ce que tu t'ennuies?
M'ennuie de faire des choses. Des fois, je passe dans la ville, je dis, ah, tiens, ça, c'est moi qui l'ai fait, etc. Je trouve ça le fun. Mais, puis, tu n'as jamais ce pouvoir-là. Là. C'est une expérience de pouvoir extraordinaire de transformer des idées de toi ou des autres autour de toi en action, en vraies choses, des demandes des citoyens. On pourrait-tu bloquer ma rue? Oui, madame, demain matin, ça va être fait. Ben, ça, c'est le fun. Mais, la politique, dire la bonne chose, pas celle. La politique, c'est l'art du juste milieu. Puis, moi, je n'aimais pas trop le juste milieu. Fait que, pour ça, je m'ennuie pas. Mais je veux rebondir sur ce que MC a dit. Moi, j'ai, par contre, si c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste être responsables et transparents en se présentant aux élections, il commence à avoir une génération de jeunes qui correspondent peut-être un peu à ton souhait. Là. Ils sont peut-être pas rendus dans les régions, MC, là, mais à Saint-Jérôme, le mouvement jérômien, Le jeune a 21 ans, c'est un phénomène. Là. C'est un phénomène. J'ai lu son programme, je suis tombé à terre. Moi, je n'avais pas fait un beau comme ça, un programme. Puis l'équipe qui a rassemblé derrière, en dessous de lui, c'est une équipe d'adultes, des gens qui ont dit, OK, c'est des gens qui ont une carrière dans plein de domaines, là, des gens de tous les métiers. Puis on dit, OK, ça va être toi notre leader. T'as 21 ans, ça va être toi notre leader. Puis on va te suivre. Wow! Je regarde aussi à Laval, à Longueuil, etc. Je regarde des conseillers qui arrivent dans plein de... Je regarde surtout autour de Montréal, évidemment. Je suis un peu montréalocentriste, mais je vois ça, puis je me dis, ah, ben là, ça commence. Et les gens, protection des milieux naturels. Puis que là, on met un post sur Facebook ou sur Twitter, surtout en ce moment, un post sur Twitter en disant, vous savez, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous n'êtes pas obligé de faire l'expropriation. On peut peut-être passer par une loi sur la protection. Puis là, il y a ces gens-là échangent, etc., en disant, ben oui, dans mon coin, etc. Je fais le même souhait que toi, moi. J'aimerais qu'il y ait des gens qui se présentent pour autre chose que tondre le gazon et ramasser la neige.
Bon, Luc, deux commentaires, je vais vous laisser là-dessus, messieurs. Un commentaire dans la messagerie. Oubliez ça, nous ne voulons pas de cette extrême gauche à la Ferrandaise qui est un désastre. Et je t'aime, Luc, on le veut comme maire, même si je ne vis pas à Montréal.
Il y en a un troisième qui dit, il gagnait combien, le Ferrandaise, comme maire du plateau?
C'est ça, 22 000 fois 4.
OK.
Salut!
Pour ça que mes taxes étaient si élevées.
Et j'ai une dernière question, comme m'a déjà demandé une ex. Est-ce que c'est fini pour toujours, Luc?
J'aime l'introduction. Hey, peux-tu dire, tu me demandes mon salaire. Veux-tu savoir mon salaire à l'heure? Mon salaire à l'heure, il était bon, en mot t'as dit.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais oui,
mais ça répond pas à ma question. Donc, j'aurais dû dire la politique. Est-ce que c'est fini pour toujours?
On en reparlera lors d'une autre émission.
Ah, salut! Il dit pas non. Merci, Luc.
Salut,
merci pour ce mercredi. Mec Ferrandaise, les gars. Le gouvernement peine à recruter des infirmières. On manque d'infirmières dans le réseau public. Et là, il y a deux, trois semaines, là, Christian Dubé a annoncé des primes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 $, 18 000 $ même, selon dans certaines régions, pour attirer des infirmières dans le public ou des infirmières du public à travailler à temps plein dans le public. Bien évidemment, le but, il est bien simple, c'est d'avoir plus d'infirmières pour éviter d'imposer du temps supplémentaire obligatoire, ce qui fait fuir les infirmières. Là, le décret est sorti, le décret là qui codifie, là, qui encadre le paiement de ces primes-là. Je vous le dis, c'est complexe. Il y a beaucoup de jargon, j'imagine que c'est inévitable, là, mais regardez, ça s'étire sur 11 pages, puis le document explicatif qui est un question-réponse a 15 pages. Parfait. Et là, ce qui circule chez les infirmières, je vous dis pas que c'est vrai, OK? Je vous parle de la perception qu'on peut même décrire comme étant générale chez les infirmières, quand je vais dans les forums de discussion, là, notamment sur Facebook, c'est que le gouvernement veut s'arranger pour avoir tellement de critères que ça va être difficile de payer les primes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une perception. On va essayer d'éclaircir tout ça avec Françoise Ramel. Elle est présidente de la FIC au Syndicat des professionnels en soins de santé du Centre-Sud de Montréal. Madame Ramel, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
D'abord, avant d'aller dans le détail pour les modalités de paiement des primes, les primes là annoncées il y a quelques semaines, est-ce que ça fonctionne? Constatez-vous que ça a un effet sur le terrain?
Non, ça ne va pas avoir d'effet sur le terrain. Absolument pas. C'est quelque chose de honteux. C'est une iniquité pour le personnel, pour toute la profession infirmière auxiliaire INAGO. C'est une honte.
OK. J'ai lu le décret. Vous connaissez ça mieux que moi. Est-ce que ce décret-là, pour vous, là, est-ce que c'est rempli de pièges ou c'est juste compliqué avec le jargon?
Il y a le jargon qui est là, hein, parce que le gouvernement fait à chaque fois tout ce qu'il peut pour tout mélanger tout le monde. Mais il y a aussi, c'est très compliqué, il va y avoir beaucoup d'exceptions. Donc il va falloir, si vous avez reçu une somme, il va falloir la rembourser si jamais vous êtes malade ou quoi que ce soit. Au prorata, c'est certain. Mais il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup d'exclusions pour cette prime. Dont, par exemple, la chose la plus intéressante, c'est que vous allez exclure de ces primes les personnes qui veulent partir en congé pour études. On demande aux gens de venir travailler, d'améliorer leurs conditions, de venir travailler comme infirmière dans la profession et on va leur enlever la prime parce qu'ils sont partis pour études.
Mais expliquez-moi quelque chose. Si, donc, pour certains contrats, là, on signe et il y a une prime de 5 000 $Si je m'absente, c'est normal que ma prime soit, disons, un petit peu grugée au prorata du nombre d'heures où je dois m'absenter, non?
Oui, ça, ça, on peut le comprendre que c'est normal qu'il y ait un prorata. Ce qu'on peut pas comprendre, c'est que c'est une iniquité complète. Vous avez des primes que pour les gens qui vont être à temps complet. Donc, ça veut dire que le gouvernement oblige encore les gens à être à temps complet. Une prime que si vous êtes au travail à temps plein tout le temps. Donc, aucune conciliation famille-travail. Tout ce qu'on a mis en place dans la nouvelle convention qu'on voulait mettre en place pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la profession, parce que c'est ça qu'on veut au final, c'est améliorer la profession, et ben on pourra pas le mettre en place parce que si vous prenez toutes ces améliorations de conditions de travail qu'on a essayé de mettre en place dans cette convention, et ben les gens vont perdre la prime.
Une infirmière qui doit s'absenter à dernière minute, son enfant est malade, est-ce qu'elle perd une partie de sa prime?
De ce qu'on comprend, elle va perdre au prorata. Mais vous comprenez que vous recevez 5 000 $ à la signature de votre engagement. Déjà, hein, ça va être un engagement juste entre l'employeur et l'employé. Donc, la convention ne va plus tenir. OK? Donc, déjà, ils vont faire leur signature, puis vous allez recevoir votre 5 000 $. Un mois après, vous arrivez une bad luck, c'est l'hiver, là, vous allez tomber, vous allez vous casser le poignet. Ben, il va falloir rembourser ce 5 000 $ que vous avez dû. Pas en entier, mais au prorata. De que vous avez reçu. Donc c'est ça qui ne marche pas. Et puis c'est le fait que c'est complètement, je vous dis, ça n'améliore pas les conditions de travail. Ça crée juste de la tension encore plus parce que des gens ne vont la voir, l'autre à côté qui fait le même travail ne va pas la voir. C'est réduire encore les professionnels de la santé à des obligations, à des arrêtés, et ça ne peut plus durer. Il faut que ça cesse.
J'ai vu dans les forums de discussion Facebook des infirmières dire que bon, si elles ont doivent prendre des congés de suivi pour suivi de grossesse, elles allaient être pénalisées. Moi, ce qu'on me dit au bureau du ministre Dubé, c'est que c'est pas vrai. Est-ce que c'est la lecture que vous en avez aussi?
Nous, on a cette lecture-là. C'est vrai qu'on attend vraiment à voir la position, voir vraiment qu'est-ce qui va se passer quand on va leur poser des questions. Mais actuellement, c'est la lecture qu'on en a, oui.
OK. Il y a le gouvernement, mais je veux qu'on parle du rôle des syndicats dans tout ça parce que je vous le dis, là, je garde un œil sur ma messagerie, puis les syndicats sont vus comme étant partie du problème. À la FIC, là, le geste le plus fort que vous avez fait pour ramener des infirmières dans le public, c'est quoi?
Eh ben, c'est tout ce qu'on a essayé de demander avec la Convention nationale, je vous dis, d'aménagement de temps de travail, de conciliation travail-famille et tout ce qui a été refusé par le gouvernement. C'est toute la négociation qu'on a essayé de faire pour justement que notre profession soit valorisée, que nous puissions faire notre travail qui est de la prévention, de l'éducation et des soins auprès des soignants, des patients. C'est ce qu'on veut faire, c'est notre rôle. Et actuellement, le gouvernement ne nous laisse pas le faire et essaie de diviser tout le monde avec en jetant de l'argent comme ça. C'est juste une annonce de 1 million, ben ça c'est très bien pour son image, hein, M. Legault et M. Dubé, très très bien là pour faire le fanfaron devant tout le monde, mais il faut voir les conditions de travail qu'ils vont imposer avec ça. C'est-à-dire que la personne qui va devoir rester chez elle parce que son fils a la grippe ou etc., parce qu'on est en temps de pandémie, parce que tout le monde est bloqué avec ça, ben elle va se retrouver au prorata, donc on va lui couper sans arrêt.
OK, Mme Ramel, je vous entends là que bon, vous êtes pas d'accord avec les histoires de primes du gouvernement là, mais à la FIC là, vous auriez fait quoi pour ramener des infirmières immédiatement? Pas un plan de 5 ans, pas un plan d'1 an, on a besoin d'infirmières maintenant. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux que les primes qui ont été annoncées par M. Dubé?
Ben, je vous dis, nous respecter notre profession. Si déjà ils nous redonnaient la valeur et puis ils écoutaient les gens sur le terrain qui ont des solutions au lieu de prendre les décisions sans
écouter
personne. Comme quoi?
Comme quelle solution là? Solution là qui va ramener des gens là d'ici un mois là. Comme quoi?
Ben, dites-leur que on va vraiment mettre en place les améliorations de temps de travail. Dites-leur que ça va être fait pour vrai. Dites-leur qu'on va concilier leur travail famille. Pour vrai, juste des annonces et faire le fanfaron, ça marche pas.
On s'entend. Personne veut que les infirmières fassent du TSO, du temps supplémentaire obligatoire. Mais si on n'a pas plus d'infirmières maintenant, elles vont être obligées d'en faire. Donc, votre solution à vous, c'est quoi?
Faire, vous savez, elles sont pas obligées d'en faire. Hein. Qui est responsable des patients? C'est l'organisation. L'infirmière est responsable de ses soins, elle fait ses soins. Normalement, c'est l'organisation qui est responsable. Et normalement, c'est les ordres qui sont responsables des soins qui sont donnés. Donc, c'est à eux de venir voir sur le terrain où on en est. Et donc, la solution qui est actuellement qu'il fallait faire, c'est prendre en compte ce que les gens veulent demander, ce que les gens veulent pour améliorer les soins et veulent pour la société.
Pourquoi c'est mieux géré chez les Anglais? Pourquoi chez les Anglais, il y a beaucoup moins de TSO?
Parce que chez eux, c'est différent. C'est pas du TSO, pas de la substitution d'emploi, c'est de la... Excusez-moi, je trouve plus le mot. C'est qu'ils remplacent pas, en fait. Donc, c'est du non-remplacement. Donc, en fait, ça se voit pas. C'est comme de partout ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on a mis le doigt sur le TSO sans arrêt dans le TSO. Donc, comme ils veulent plus que ça se sache, maintenant, c'est du non-remplacement. C'est-à-dire qu'ils vous remplacent pas. Et donc, ils vous laissent vous débrouiller toute seule. Donc, voilà.
Comment le travail est mieux organisé chez les Anglais? Parce ce qu'on entend, c'est que dans le réseau anglophone, il y a beaucoup moins de TSO, il y a moins d'épuisement. Je dis pas qu'il y en a pas, mais moi, je connais beaucoup de francophones qui ont travaillé, par exemple, dans les deux réseaux, qui ne voudraient jamais retourner travailler dans le réseau franco. Pourquoi?
Parce que c'est mal géré. Parce qu'ils ont fonctionné avec des obligations, parce qu'ils ont fonctionné avec des impositions. C'est mal géré dans le réseau francophone par rapport au réseau anglophone, peut-être. Je ne sais pas ce qui fait que dans la mentalité, c'est différent. Mais voilà. Mais par contre, ils n'ont peut-être pas de TSO, je vous dis, mais ils ont du non-remplacement. Est-ce qu'il revient exactement au même?
Il y a beaucoup de quarts de travail de 12 heures, pardon, chez les anglophones. On me dit que dans les hôpitaux francophones, les unités syndicales locales s'opposent à ça. C'est-tu vrai?
Absolument pas. On s'oppose pas, on veut juste que ce soit mis en place dans de bonnes conditions. Donc quand les équipes le demandent, on le fait. D'ailleurs, vous pouvez voir, à l'hôpital Notre-Dame, on avait signé tous des papiers avec eux pour ouvrir une unité de 12 heures. Simplement, tous les gens avaient postulé sur cette unité de 12 heures, sauf que ça n'a pas pu se mettre en place à cause de la pandémie. Donc il n'y a aucun syndicat qui va refuser ça. C'est juste de mettre en place ça de façon correcte, parce que quand vous faites du 12 heures et que vous êtes imposé en TSO, ça fait longtemps. Donc il faut que le gestionnaire, le gouvernement réfléchisse à comment ils vont organiser les choses pour faire du 12 heures, parce que si c'est pour faire après du TSO, les gens n'en peuvent plus.
Je vous amène, vous êtes représentante de la FIC là, pour Centre-Sud de Montréal, je le rappelle.
Oui.
Il y a eu ce vote de non-confiance à la présidente qui s'en va. Ça va prendre quoi pour ramener l'unité dans votre syndicat?
Ben, je pense que l'unité, là, elle est là et qu'on travaille tous justement, on est là solidaires pour...
Madame Ramel, quand la présidente est éjectée, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a vraiment beaucoup d'unité, là.
Ben maintenant, l'unité est revenue. Je pense que on est revenu justement avec des positions. En tant que syndicat, on s'est positionné justement pour faire valoir la parole des membres. Et c'est ça qui est en train de changer justement. Et je pense qu'on est justement redevenu un syndicat très, très fort. Et 76 000 infirmières en colère, ça fait mal.
Merci, Madame Ramel. Bonne journée.
Merci.
Salut.
Au revoir.
C'était Françoise Ramel, présidente de la FIC, au syndicat des professionnels en soins de santé du Centre-Sud de Montréal. Donc, je vous le dis, on commence à étudier dans les rangs syndicaux, mais pas juste dans les rangs syndicaux. Il y a des infirmières de la base qui regardent le décret, qui ont de la misère à comprendre. C'est du jargon. On en est aux clarifications présentement, mais je vous le dis, c'est reçu de façon assez sceptique présentement. Est-ce que c'est une perception qui est juste? Ben, l'avenir va le dire.
Patrick Lagacé en accéléré.
On parle de vaccination des députés fédéraux parce que à compter du 22 novembre, il n'y a personne, ni les députés, qui pourra entrer dans un édifice de la colline parlementaire à Ottawa sans être pleinement vacciné. Ça fait pas l'affaire des députés conservateurs. On a tenté de joindre deux députés conservateurs du Québec bien connus, M. Alain Reyes et M. Gérard Deltel, sans succès. Donc, on se tourne vers un autre député, Alexandre Boulris, député du NPD pour Rosemont-la-Petite-Patrie. M. Boulris, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, si je comprends bien, à partir du 22 novembre, tout le monde, incluant les députés, devra montrer son passeport vaccinal pour entrer dans ce qu'on appelle là, la cité parlementaire.
La cité parlementaire, les édifices de la colline parlementaire, c'est-à-dire, oui, les 338 députés en théorie, là, on verra, il y en aura combien pour vrai, mais également nos adjoints parlementaires, les employés de la Chambre. Tout ça, pour deux choses, pour donner un milieu de travail qui est sécuritaire le plus possible pour tout le monde, mais aussi pour, à quelque part, montrer l'exemple. Là, vous savez, on est des législateurs, on a besoin de faire des efforts, les vaccins fonctionnent. Alors nous, on dit, on va être exemplaires et puis on va s'assurer que tous les députés soient adéquatement vaccinés pour venir en présence sur le lieu de travail qui est le Parlement.
Écoutez, les gens qui écoutent l'émission savent que je suis en faveur de la vaccination. Je comprends qu'il y a des gens là, qui ont peut-être des conditions médicales qui peuvent expliquer là, pourquoi ils ne seraient pas vaccinés. Mais dans ce cas bien précis, écoutez, si un député ou une députée a été choisi par les électeurs, est envoyé à Ottawa, Est-ce que c'est une bonne raison de dire à ce député-là, ben tu peux pas rentrer parce que tu n'as pas de preuve vaccinale?
C'est une bonne raison parce que c'est ce qu'on demande aux employés fédéraux. On serait mal placé comme parlementaire, comme élu, de dire faites ce que je dis, pas ce que je fais, et qu'on demande aux employés fédéraux de faire cet effort-là, qui est louable et qui est nécessaire pour qu'on passe à travers cette quatrième vague, qu'on mette cette pandémie-là de côté. Le vaccin fonctionne, donc autant l'utiliser. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver par la suite des arrangements pour que les députés puissent continuer à faire leur travail sans être en présence. On l'a fait à distance pendant un an et demi, pourquoi pas?
Mais non, mais comprenez ce que je veux dire. Les employés du fédéral, ce sont des employés. Les députés, ce sont pas des employés. Les députés ont été choisis, ils occupent une fonction parce qu'ils ont été élus dans leur comté. Moi, je suis pour la vaccination. Dans ce cas-là, je me pose la question. Pas comme un déni de démocratie si on décide d'imposer ce critère-là à des élus?
Non, parce que la Chambre est souveraine, le Parlement est souverain, qui fixe ses propres règles. Le bureau de la régie interne a eu des discussions avec des représentants de quatre partis. C'est la décision qui a été prise, qui est supportée par la grande majorité des partis en Chambre. Ça n'empêche pas le député de poursuivre ses travaux, de représenter ses gens, puis d'intervenir à distance, peut-être, s'il y a un Parlement hybride, on ne sait toujours pas à l'instant, en ce qui est des discussions qui sont toujours en cours. Et moi, je pense que les électeurs peuvent continuer d'être représentés. Par contre, on fixe une règle qui est très simple, qui est la même pour tout le monde. Vous rentrez sur la colline parlementaire, vous devez être adéquatement vacciné. C'est la bonne chose à faire. C'est comme ça qu'on va vaincre la pandémie.
Monsieur Boulris, ce sont les conservateurs qui ont fait une sortie pour dénoncer cette décision-là. Les autres partis sont d'accord? Le Bloc, le NPD, ouais. Les libéraux?
Et oui, mais là, il faudrait demander aux conservateurs pourquoi ils s'y opposent. Hein. Je sais qu'ils jouent au cachotier depuis un petit bout de temps. Ils nous disent pas quel candidat ou quel député a été vacciné, une dose, deux doses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont fortement anti-vaccin dans leur rang. Ça doit brasser pas mal actuellement. J'aimerais ça être un petit oiseau, une petite mouche dans la pièce là pour entendre les discussions, parce qu'ils se mettent un petit peu en porte-à-faux puis en contradiction avec la grande, grande majorité des citoyens et des citoyennes qui trouvent que c'est une bonne chose à faire, se faire vacciner, puis que tout le monde doit faire cet effort-là, d'autant plus quand, justement, tu es un représentant du peuple puis que tu dois dire ben c'est un effort collectif à faire, on a souffert pendant un an et demi, mais ben, montrons l'exemple, soyons pleinement vaccinés, et ça fonctionne. Et ensuite de ça, ça réduit la pression sur notre système de santé, les hospitalisations, etc., etc.
OK, je veux vous parler un autre sujet, là. Élections Canada a annoncé la nouvelle répartition des sièges à la Chambre des communes. Il y en a 338 sièges présentement. On passerait en 2024 à 342. Puis le Québec, à cause du déclin démographique, perdrait un siège. Est-ce que c'est juste ou injuste?
Ben c'est injuste parce que si on est cohérent puis on dit que le Québec est une nation, doit être reconnu comme tel, puis a une place particulière au sein de la fédération comme peuple fondateur, nous au NPD, on est totalement contre une espèce de ratatinement ou d'effritement du poids politique ou du poids démographique du Québec au sein de la Chambre des communes. Et il y a des solutions, il y a des alternatives. On sait qu'Élections Canada, ils font pas ça eux autres là pour des fins partisanes. Ils regardent les chiffres puis après ça, ça arrive à des conclusions. Mais il y a déjà des exceptions. Il y a déjà des exceptions pour des provinces maritimes, l'île du Prince-Édouard, par exemple. Il y a déjà des exceptions pour les territoires du Nord. Donc, moi, je pense qu'on peut plaider de manière totalement cohérente qu'on défend le Québec, puis on défend le poids politique du Québec, puis on va essayer de trouver un arrangement, tout en respectant le fait qu'il y a plus de monde qui vivent maintenant en Alberta ou en Colombie-Britannique. On est tous très, très conscients de ça. Mais moi, je veux pas voir lentement la place du Québec au sein du Parlement canadien rétrécir puis s'affaiblir. Je pense que ça nous ferait mal collectivement.
J'apprécie votre inquiétude, mais je me demande aussi, M. Boulris, c'est-tu la job des députés, la job du politique, de dire à Élections Canada, qui est un organisme indépendant, voici comment vous devriez faire la répartition des sièges dans le pays?
On est toujours consulté comme parlementaire, comme député par Élections Canada quand il y a des changements, que ce soit le redécoupage, les noms des circonscriptions. Mmh. Et donc, on a une plateforme pour être consulté, pour intervenir. Puis il y a déjà des lois puis des règles qui existent pour certaines exceptions, notamment, j'en parlais tantôt, sur le Nord ou l'Ordre des provinces maritimes. Donc, on peut travailler avec ces outils-là. C'est pas à nous autres à dicter à Élections Canada quoi faire, mais moi, comme représentant québécois puis montréalais, j'ai une job à faire avec l'opinion publique puis avec les outils que j'ai pour défendre le Québec.
Merci beaucoup, M. Boulris. Bonne journée.
Ça fait plaisir, M. Lagacé. Au revoir.
Salut, c'était Alexandre Boulris, le député néo-démocrate du Québec, le seul député du NPD qui représente Rosemont, la petite patrie.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.